One, two, sen çek. Suki. That's it, man.
Wait.
That's it, man.
Divergentes et divergents, prolétaires du Clapas et d'ailleurs, exploités et damnés de la terre, enfin bref. Proboscopiennes et proboscopiens, le loup, le renard et la belette, vous salue. Vous avez la chance d'écouter Proboscopie, l'émission politique diffamante de la bande FM. Aujourd'hui, nous recevons la fine fleur de la classe ouvrière, l'avant-garde éclairée du prolétariat, si tant est qu'il existe encore. Vous aurez compris que je parle de la plus ancienne centrale syndicale française, la Confédération Générale du Travail, autrement dit, la CGT. Et dans le studio du Beau Monde, Serge Ragazaki, le Corse bitérois responsable départemental du syndicat, accompagné de Frédéric Morat, l'avocat de la dite centrale, et de Roger Oustry, la mémoire vivante du syndicat. Mieux, en primeur, vous aurez droit à l'interview de Thierry Lepense, normand, ancien de Moulinex, qui a répondu aux questions à peine proboscopiennes de la belette de notre camarade Simon Morin, et que la divergence soit. Messieurs les apparatchiks, bien le bonjour. Nous vous proposons de diverger durant 90 minutes autour de deux thèmes suivants, après l'interview de Thierry Lepan. On va parler de la réduction du temps de travail, grâce à la hausse de la productivité. Et puis on va parler des nationalisations temporaires pour une démocratie d'entreprise, ou du moins, qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Alors qui sont nos invités? Serge Ragazaki, leader départemental de la CGT, et néanmoins un de nos conseillers éditoriaux. Frédéric Morat, l'incroyable avocat du syndicat, qui vient se faire déflorer dans Provoscopie. Et puis Roger Oustry, l'historien intérieur de la CGT. Mais encore, j'oubliais le plus important, Thierry Lepan, le futur nouveau patron de la CGT. Allez Serge Ragazaki, présente-nous en deux mots ton nouveau chef, ton nouveau patron. C'est qui ce camarade Lepan, là? Il fait la roue?
Ça roule toujours pas mieux, hein?
Soupir.
Donc Thierry Lepan donc est un métallo qui a une particularité, c'est d'avoir été responsable d'une organisation territoriale de la CGT, puisque jusqu'à présent, tous les secrétaires généraux de la CGT avaient été issus, en tout cas avaient eu comme principale responsabilité des responsabilités fédérales. Or, si Roger ne me contredit pas, depuis 1902, congrès de Montpellier, la CGT est organisée autour de sa double appartenance, territoire et fédération. Et donc c'est pour la première fois un camarade issu d'une organisation territoriale, il était responsable du comité régional, il siège au CESE, donc qui arrive aux fonctions de secrétaire général, il est du privé, et il a eu toute la confiance du comité confédéral national, puisqu'il a été élu à l'unanimité, ce qui doit être réédité lors du congrès, mais en tout cas sa candidature a été retenue à l'unanimité, moins deux abstentions, voilà... Vous avez rencontré Thierry et je pense que vous avez apprécier.
Avant tout, il y a votre belette préférée qui s'apprête à pousser un cri en revisitant l'histoire du syndicalisme à la française, qui d'anarcho-syndicaliste est devenu si réformiste qu'il aurait muté dans un pragmatisme oublieux de toute idéologie. Enfin, rude tâche, je vous en dis pas plus. Après le petit jingle, ça va être à toi la belette.
Cri de la belette par Jean-Pierre Foubert.
Syndicat. Conduire avec. Forme de défense des intérêts dépassant largement le nombre de ses adhérents. Différents des partis politiques auxquels ils sont pourtant souvent liés. Alors que les partis politiques sont censés organiser la société dans toute sa complexité, les syndicats sont censés défendre les intérêts catégoriels des travailleurs, entre guillemets, voire des patrons, entre guillemets, des cadres, entre guillemets, etc., etc. Ils se battent en général pour la défense de l'emploi, ils luttent contre les licenciements, pour les augmentations de salaire, pour la défense des avantages acquis. Sans rentrer dans l'actualité immédiate de la France, on peut constater que quelques questions se posent. La multiplication des syndicats, CGT, Force ouvrière, CFDT, CFTC, UNSA, Sud, etc., sans parler du MEDEF, est-elle due à une trop grande conjonction avec la vie politique, les rapports avec une majorité et une opposition, une gauche et une extrême gauche. Les syndicats sont-ils encore représentatifs quand on voit les chiffres de la participation aux élections professionnelles ? Leur existence est-elle simplement encore justifiée par la nécessité d'être un interlocuteur dans le cadre de négociations en évitant le phénomène des coordinations jadis inefficaces ? Sans remettre en cause la justesse de telle ou telle lutte, leur évolution devient-elle une nécessité pour éviter un conservatisme non adapté à la rigueur de l'évolution du capitalisme mondialisé ? Entre guillemets, « prolétaires de tous les pays » a-t-il encore un sens ? Les ouvriers de France constituent-ils, par rapport aux ouvriers de trop nombreux pays, une nouvelle aristocratie ouvrière ? Bref, le syndicalisme aujourd'hui doit-il faire sa révolution culturelle comme cela s'est fait dans d'autres pays ?
Bon, et ben revenons à la maison, et puis maintenant, bon, on va écouter ce que Thierry Lepan, le grand patron de la CGT, aurait à dire.
Nous sommes avec Monsieur Thierry Lepan et Daniel Sanchez. Thierry Lepan, vous êtes le futur secrétaire général de la CGT, désigné en octobre 2012 par la commission exécutive confédérale, et vous allez succéder officiellement à Bernard Thibault en mars prochain lors du congrès confédéral de Toulouse. Et vous allez avoir affaire entre actions sur le terrain avec la multiplication des plans sociaux dans l'industrie, PSA, les fourneaux d'ArcelorMittal, Goodyear, et encore il y a quelques jours, et actions auprès de l'Elysée en réaction à l'accord syndical signé début janvier entre le MEDEF, la CFDT, la CFTC et la CGC. La CGT vient de passer le cap des 720 000 adhérents. Dans l'Hérault, vous êtes là pour cette raison-là. Le cap des 10 000 adhérents vient d'être franchi. Est-ce qu'on peut commencer déjà cette interview par vous présenter ? Vous êtes originaire de Caen, vous avez 52 ans, vous êtes issu d'un milieu populaire, vous avez été soudeur à Moulinex, chaudronnier, et on vous a connu pendant la période du plan social au début des années 2000 à Moulinex, et vous avez passé 6 ans à la direction confédérale du syndicat, c'est bien ça ?
C'est bien ça, le parcours est parfait.
Juste une petite citation, Raymond Soubi, qui est un ancien conseiller de Nicolas Sarkozy et qui est le PDG d'Alixio, déclarait récemment au Nouvel Observateur, à votre propos, il doit recréer l'unité au sein de la CGT et rendre lisible le référentiel de pensée de son syndicat.
Ouais, ça, vous avez remarqué comme moi que c'est une formule digne du grand Raymond Soubi. Non, je crois que le congrès confédéral qui se réunira, comme vous l'avez dit, à Toulouse, devra tracer le chemin pour l'ensemble des organisations qui composent la confédération pour les 3 ans qui viennent, dans une période particulière, puisque vous l'avez dit également, on est confronté à une très forte montée des restructurations dans notre pays. C'est vrai dans l'industrie, c'est vrai aussi dans les services publics, puisque la révision générale des politiques publiques telle qu'elle a été pensée, imaginée, mise en œuvre par Nicolas Sarkozy se poursuit aujourd'hui, et qu'il y a 2-3 questions qui sont primordiales, me semble-t-il, dans la tête des Français, et pour ce qui nous concerne des salariés aujourd'hui, j'en cite juste 3. La première préoccupation, c'est la question des salaires. Bon, et ça fait des années aujourd'hui que ce qu'on appelle pudiquement la modération salariale se traduit par des pertes de pouvoir d'achat entre 10 et 15% pour l'ensemble des salariés. Bon, les questions ayant trait à l'emploi, puisqu'effectivement c'est la principale préoccupation des Français, et notamment des salariés, et elle est légitime quand on voit l'avalanche de plans de restructuration, mais aussi la manière dont l'État entend, entre guillemets, dégraisser dans les services publics. Bon. Et puis la troisième, c'est les questions ayant trait à la protection sociale, au financement de la santé, au financement de la retraite, puisque là, pour la première fois dans l'histoire des négociations autour de la retraite, et je pense que ça vous a pas échappé, non seulement la question de cotiser plus se pose, la question de travailler plus se pose également, mais la diminution des pensions de retraités est posée également par le corps, et c'est ce qui va servir de base à la négociation telle que l'entend le patronat aujourd'hui. Et donc nous ne sommes pas du tout sur cette démarche, et nous allons mener les actions nécessaires pour qu'effectivement notre point de vue puisse apparaître clairement lors de ces négociations.
Et concrètement, du coup, comment ça va se passer après avoir claqué la porte, du coup, de cet accord syndical signé début janvier ? Comment la CGT aujourd'hui va pouvoir reprendre sa place, du coup ?
Alors, nous n'avons pas claqué la porte. Nous avons, au contraire, mené le combat dans le cadre de cette négociation importante jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est le patronat et puis les syndicats signataires qui ont claqué la porte en signant un accord et qui ont jugé qu'il était bon pour eux d'en rester là. On a un plan qui en fait peut se découler schématiquement en trois phases. On a d'abord une première phase d'information. Bon. La plupart des salariés ne connaissent pas aujourd'hui quel est le contenu de cet accord, tellement d'une part il est rédigé dans un langage MEDEF qui n'est pas accessible à tout le monde, et d'autre part, les incidences de cet accord ne sont pas aujourd'hui à la portée de l'ensemble des salariés. Donc nous avons sorti un matériel à 2 millions d'exemplaires dans le pays pour expliquer concrètement, avec des mots simples, quelles peuvent être les conséquences pour les salariés qui sont au travail aujourd'hui. Puis nous sommes rentrés maintenant dans une deuxième phase de mobilisation, puisqu'effectivement nous considérons, nous, que les députés aujourd'hui n'ont ni le devoir ni le pouvoir de transcrire dans la loi un accord qui est minoritaire. Il est minoritaire quand on additionne les voix des signataires et au regard des voix des non-signataires. Donc il faut déjà que les députés acceptent l'idée de calculer comme il le faut. Cet accord n'est pas un accord majoritaire. Et puis enfin, nous allons créer les conditions de la mobilisation, puisque nous pensons que ce qui est inacceptable, et nous pensons que l'accord il est inacceptable, ne doit pas être accepté. Et donc nous allons mener des discussions d'une part avec les parlementaires pour leur expliquer que leur mission c'est pas seulement de transcrire dans la loi des accords minoritaires, mais nous savons aussi que l'intervention des salariés est essentielle, et donc nous allons organiser l'action collective pour rassembler, pour manifester et pour faire valoir notre point de vue, parce que non seulement l'accord tel qu'il est signé, non seulement tel que tentent de le dire les députés, transcription intégrale de l'accord dans la loi, là-dessus on n'est pas d'accord, mais on a aussi, nous, fait des propositions dans le cadre de la négociation pour qu'effectivement la situation ne reste pas dans l'état et pour que le sort des salariés puisse véritablement s'améliorer.
Le problème de la flexibilité, par exemple, du travail, qui est une manière, je dirais, presque allemande, hein, une réforme telle que Schröder l'avait imaginée, pour vous, j'imagine, est une chose complètement inacceptable.
Oui, parce que ça produit des effets désastreux en Allemagne, bon, en Espagne, en Grèce, en Portugal, mais aussi en France. Mmh. Alors, on nous dit que le code du travail est rigide. Quand on regarde l'ensemble des dispositions qui sont aujourd'hui déjà à la portée des employeurs pour annualiser le temps de travail, le temps partiel, le recours au CDD, le recours à l'intérimaire, le temps partiel annualisé, le patronat dispose aujourd'hui déjà de plein de dispositifs qui lui permettent de faire en sorte que le temps de travail puisse correspondre le mieux possible aux commandes qu'a l'entreprise. Aller plus loin que cela aujourd'hui, c'est remettre en cause la vie privée du salarié. Le salarié, il n'a pas que le travail dans sa vie. Il a une vie sociale, une vie familiale. Il y a un rapport social dans notre civilisation qu'il faut maintenir. Et le salarié, c'est pas quelqu'un qu'on appelle le matin pour travailler 3 heures et puis le soir pour recommencer 2 heures. Il faut vraiment qu'on replace la question du travail et de l'homme au travail au cœur d'une véritable négociation qui permette de vivre mieux et de vivre ensemble. Et puis, il y a aussi des oppositions farouches aujourd'hui qui nous sont mis en pleine figure. Quand les directions nous disent c'est où vous acceptez des reculs sociaux quand ou sinon on va être contraint de délocaliser. Bon. Et quand on regarde, y compris maintenant, c'est d'une usine à une autre, d'un quartier à un autre, d'une ville à une autre. Enfin, la mondialisation, c'est plus entre le continent européen, l'Asie, les Amériques. On n'en est plus là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est y compris opposer les salariés français entre eux sur leur travail, sur leur rémunération. C'est une vraie course à l'échalote dans laquelle l'ensemble des salariés risque d'être perdant. Il y a eu beaucoup d'espoir dans le changement. Un espoir de 2 heures. Le premier, c'était de faire en sorte que le président de la République et son équipe sortent de la direction de notre pays. Et puis le deuxième, c'était que, avec l'arrivée d'un gouvernement de gauche, on puisse faire changer la vie des salariés au travail. Il faut constater aujourd'hui que ces espoirs sont en partie déçus. Et notre responsabilité à nous, c'est de faire en sorte que on ne passe pas de l'espérance à la désespérance qui mène, nous le savons directement les salariés dans les bras du Front National. Nous, ce que nous voulons, c'est porter nos revendications et réussir des rassemblements. Alors hier, on donne des chiffres globaux, Je partage l'idée que c'est pas à la hauteur. Bon. Ceci dit, c'est une première phase qui vise effectivement à poser les questions du rassemblement parmi les salariés. D'ailleurs, vous remarquerez comme moi que s'il n'y avait pas eu cet appel à manifester, on n'en parlerait pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on en parle parce que la CGT, avec d'autres forces syndicales, a décidé de dire aux salariés, prenez vos affaires en main, il est important de le faire maintenant, votre avenir, c'est vous qui allez l'écrire, c'est ni les députés à l'Assemblée nationale dans l'état actuel des choses, ni le patronat qui est prêt à signer n'importe quel accord, il faut que vous puissiez intervenir sur la scène économique et sociale.
D'accord. Un point quand même, les problèmes que vous posez, c'est le rapport entre l'économique et le politique, c'est clair. Est-ce que vous pensez que le politique, dans la situation actuelle économique, a une marge de manœuvre suffisamment grande pour inverser, ou pas pour inverser, mais en tout cas pour infléchir sensiblement les choses?
Et on peut en prendre comme base la déclaration du ministre du Travail, Michel Sapin, dimanche dernier, sur Radio J, qui déclarait avoir dans les mains un État en faillite.
Oui, j'ai entendu.
Ce qui est pas très loin de celle de Fillon il y a quelques années,
oui,
disant qu'il y avait plus de sous.
Oui, d'abord ils confondent la France et l'État. Il y en a un, vous avez vu, qui a dit la France est en faillite. Bon, non, la France n'est pas en faillite, c'est la cinquième puissance mondiale. On n'a jamais dans ce pays créé autant de richesses. Bon, et l'autre s'est rattrapé le lendemain en disant l'État est en faillite. Bon, je trouve d'ailleurs bizarre cette. Cette injonction au peuple français en disant on a été élu il y a peu de temps, on vous a dit que c'est possible, on connaît bien la situation, quelques mois après nous dire on est en faillite, bon qu'est-ce qui s'est passé? Bon, voilà. Et je remarque que quand les salariés revendiquent, on leur dit l'État est en faillite. Quand les patrons réclament des baisses de cotisations, un allègement, le crédit d'impôt, bon, là on trouve en quelques jours quelques milliards d'euros. Le gouvernement, enfin moi j'ai vécu pratiquement l'épisode en direct, Madame Parizeau à l'autre bout du monde téléphone au Premier ministre et lui dit il faudrait qu'on puisse avoir dès maintenant 20 milliards sur la table en termes de crédit d'impôt recherche. Bon, deux jours après, le Premier ministre annonce que l'État va faire un crédit d'impôt, voilà, auprès des entreprises de 20 milliards d'euros. Bon, et on en est aujourd'hui à 200 milliards d'euros par an d'aide au patronat, sans qu'on puisse en mesurer l'efficacité, si ce n'est le chômage qui augmente, les salaires et les pensions qui baissent. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est pas un problème de création de richesse, c'est un partage de la richesse telle qu'elle est créée. Je voulais juste vous donner un chiffre pour que on voit bien que notre problème, c'est pas seulement un problème avec ce gouvernement actuel, avec ce patronat qui aujourd'hui fait la une de l'actualité tous les jours. Le problème auquel on est confronté, c'est la répartition des richesses dans ce pays. Alors quand on regarde sur 20 ans, on se rend compte qu'il y a 20 ans, quand il y avait 100 francs de richesses créées, il y avait 60 francs qui allaient à la rémunération du travail, 40 francs qui allaient à la rémunération du capital. 20 ans après, on se rend compte que le curseur est inversé. Quand on crée aujourd'hui 100 euros de richesse, il y en a 60 qui vont à la rémunération du capital et 40 qui vont à la rémunération du travail. Et on est en droit d'attendre aujourd'hui d'un gouvernement de gauche que le curseur, bah, il pousse à gauche pour qu'effectivement les richesses créées permettent de répondre aux revendications qu'ont les salariés qui sont légitimes.
Mais par exemple, l'imposition sur le capital qui serait égale à la même, qui aurait le même impact d'imposition que le revenu hein, du travail, est-ce que ça vous semble une bonne mesure ou pas?
Oui, et ça fait partie des mesures que nous portons. Bon. D'abord, vous le savez, nous sommes pour un impôt progressif. Bon, qu'on sorte de cette mécanique de tranche où personne n'y comprend plus rien et où une poignée se plaint de payer sur une partie 75% en oubliant que ben sur tout le reste, hein, ils en payent beaucoup moins. La deuxième des choses, c'est que sans doute il faudrait revaloriser l'impôt sur le capital. Sur le patrimoine. Aujourd'hui, cette question-là n'est pas posée dans notre pays, alors qu'il y a quand même plein de familles, plein de gens très riches qui vivent juste sur les intérêts de leur patrimoine. Ça pose quand même une difficulté, y compris sur le rapport au travail et en termes de modèle qu'on veut donner aux générations qui vont nous succéder. Et puis, cette question du travail et de la rémunération, elle est posée de manière constante et il faut sans doute réfléchir à nouveau à une politique fiscale qui soit une politique d'égalité pour que chacun, comme le dit la Constitution, puisse contribuer en fonction de ses moyens et avoir en retour la société ce dont il a besoin.
C'était des thèmes évoqués il y a moins d'un an pendant l'élection pendant la campagne présidentielle, notamment par le Front de Gauche. Il y a tout juste un an, Jean-Luc Mélenchon était ici en meeting, etc. Et c'est exactement ce qu'il prônait. Et pour revenir à l'élection présidentielle, par rapport aux promesses effectuées par le candidat François Hollande et notamment celles autour des licenciements boursiers, aujourd'hui on voit que les entreprises font, comme vous l'avez souligné, des profits, mais vont continuer à licencier, etc. Sur une échelle de 1 à 10, quelle déception de la CGT, comment on peut mesurer la déception de la CGT par rapport depuis l'élection de François Hollande?
Oh bah ça se mesure pas en termes d'échelle. On n'a pas de règles à calcul, y compris quand nous avons eu la grande conférence sociale au mois de juillet, on a vu qu'il y avait un rapport différent entre la gauche au pouvoir et la droite au pouvoir en termes de discussion, en termes de dialogue. Bon, c'est vrai que Nicolas Sarkozy avait un tel mépris pour les syndicats de salariés, pour leurs représentants, qu'on voit aujourd'hui une différence. Mais notre problème à nous, CGT, c'est pas la différence qu'il y a dans les formes, entre, même si ça nous fait plaisir, entre le gouvernement, le président de la République et les syndicats de salariés, et notamment la CGT. Nous, on aime bien quand les choses se passent avec beaucoup de courtoisie, mais ça suffit pas. La question qui est posée aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait concrètement pour répondre aux besoins des salariés. Et là, on voit bien que dans le tir à la corde entre le patronat et les salariés aujourd'hui, le patronat semble l'emporter et qu'il est aidé dans cette bataille avec les salariés par le gouvernement qui entend accompagner le patronat dans le cadre de sa demande, hein, d'exonération de cotisations sociales, de baisse du coût du travail et l'accord de compétitivité participe justement à cet effet, et c'est pour ça que nous sommes en opposition.
Je voudrais revenir sur un point qu'on n'a pas évoqué, qui est la représentativité des syndicats, qui est souvent mise en avant par différents médias, etc. Quand j'étais étudiant il y a quelques décennies, on disait il y a 20% des salariés qui sont syndiqués. Actuellement, on est un petit peu en dessous de 8. Je sais que des élections professionnelles ne mobilisent pas nécessairement beaucoup de salariés, y compris dans la fonction publique d'ailleurs. Hein. Est-ce que c'est pas un problème par rapport au rapport de force que vous pouvez établir, même s'il peut y avoir des mobilisations énormes dans la rue, hein. Je me souviens des retraites avec Juppé, etc., qui pouvaient mobiliser 1 million de personnes. Est-ce que vous pensez, par exemple, que la situation en Allemagne, où je crois que dans certaines branches, l'adhésion syndicale est obligatoire, ou quasiment, est-ce que vous pensez que le fait qu'il n'y ait pas cet engagement de la part des salariés de manière syndicale, vous l'associez à quoi? Qu'est-ce qui fait cette baisse d'adhésion, en fait?
Il y a forcément plusieurs raisons. Alors d'abord, je partage votre analyse. 8% de syndiqués dans notre pays, c'est pas assez. Et nous avons la première force sociale, syndicale, organisée dans notre pays. Nous considérons à la CGT que nous n'avons pas assez d'adhérents. Voilà. Et qu'il faut renforcer notre syndicalisme. Bon. Je remarque quand même que on parle beaucoup de ce phénomène pour les syndicats de salariés et notamment pour la CGT. À nous tout seuls, nous avons plus d'adhérents que l'ensemble des partis politiques de notre pays. Et personne ne dit que l'UMP, le Front de Gauche, n'est pas représentatif. Bon. On a aujourd'hui une difficulté à appréhender ces questions-là de manière plus large. Il y a quand même des gens qui aujourd'hui, même s'ils n'ont pas encore fait le pas de s'organiser dans un syndicat, se mobilisent. Hein, on l'a vu dans le cas des grandes luttes sociales de ces 10 et de ces 15 dernières années. Et d'ailleurs, vous remarquerez que les luttes sociales en France sont beaucoup plus fortes qu'en Allemagne, alors qu'ils ont un taux de syndicalisation qui est beaucoup plus fort que le nôtre. Et donc, il n'y a pas forcément un lien direct entre les modes de fonctionnement, de relations sociales entre les différents pays. Puis vous savez, on compare souvent avec l'Allemagne, mais regardons avec la Grande-Bretagne. Pour avoir une mutuelle, pour avoir des chaussures de sécurité, pour avoir un bleu de travail, il faut être syndiqué. Voilà. Donc vous imaginez que si chez nous, y compris, on considérait que être mutualiste, c'est être syndiqué, on aurait les trois quarts des Français qui aujourd'hui seraient considérés comme étant syndiqués. Mais nous avons aussi, et je vais le dire, notre part de responsabilité. Ça veut dire que il faut qu'aujourd'hui, cette question de la force, de l'organisation, soit discutée en permanence entre les militants de la CGT et les salariés. On ne fait jamais le bonheur des salariés si les salariés n'ont pas décidé de construire leur bonheur. Voilà. Et puis, dernier élément sur la représentativité. On sort des élections des salariés des TPE. Bon, on nous met souvent seulement 10% de votants. Faut voir les conditions dans lesquelles ce vote a été organisé. Je le dis à chaque fois avec un peu d'humour, mais si on organisait les élections municipales dans une commune comme on organisait les élections pour les TPE, il y aura pas un maire qui serait élu dans notre pays au premier tour. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et donc, il s'agit pas seulement d'afficher une volonté démocratique. Si on n'organise pas la démocratie, s'il n'y a pas de droit afférent pour qu'on puisse effectivement donner le droit aux salariés de voter, mais aussi de s'organiser, y compris quand on est dans une petite entreprise, eh ben les choses se passent comme elles se sont passées, quoi. Mais le résultat, tout de même, conforte une CGT placée en tête, y compris dans les entreprises où il y a très peu de salariés. Tout le monde nous disait avant les élections, la CFDT remportera ces élections, elle est plus ouverte, elle est plus dynamique, la CGT c'est les services publics, c'est les gros bastions dans l'industrie, c'est voilà, bon. Il y a un sentiment aujourd'hui dans le pays de la part des salariés de confiance à l'égard de la CGT. Il faut que nous-mêmes on participe à ce que de la confiance, on traduit ça par de la coordination, de l'organisation, et à ce que chacun mette quelques euros par mois dans le pot commun pour qu'on puisse décider et agir ensemble. Et c'est à ça que nous allons travailler.
Si je comprends bien, vous êtes tout à fait favorable au fait que les salariés, à travers leurs syndicats, puissent se représenter dans les conseils d'administration des sociétés, ce qui n'est pas forcément le cas précédemment. Est-ce que vous pensez que le seuil qui a été fixé, je n'ai plus le nombre de salariés...
5 000.
Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est un seuil trop élevé ou on aurait dû descendre vraiment beaucoup plus bas?
Il y a deux choses. Alors, d'abord, ça fait suite au rapport de Louis Gallois, qui lui-même proposait à ce qu'il puisse y avoir 4 représentants des salariés au conseil d'administration. Le gouvernement a décidé de diviser par 2 presque, hein, bon, puisque c'est 2 hein, dont il s'agit. Bon. Ce qui d'ailleurs est un recul à ce qui existe aujourd'hui dans la plupart des grands groupes de plus de 5 000 salariés. Donc on nous présente ça là aussi comme étant une avancée sociale. En fait, c'est un recul. Bon, la deuxième question qui se pose à nous, c'est pourquoi faire ? Quel intérêt il y a à ce que les salariés aient des représentants s'ils ne peuvent pas porter de manière honnête, de manière loyale, la voix des salariés au sein du conseil d'administration, s'ils n'ont pas un droit de vote qui est un droit de vote suspensif, un droit de vote efficace, et s'ils n'ont pas les éléments qui leur permettent d'informer les salariés sur ce qui peut être dit au conseil d'administration. Parce que avoir 2 personnes sourdes et muettes au conseil d'administration, ça n'aide pas les salariés à s'emparer des questions économiques et aussi de la réponse sociale qu'on doit pouvoir apporter. Donc nous, ce que nous voulons, c'est une véritable démocratie dans l'entreprise, qu'on puisse échanger les arguments économiques, les arguments sociaux et participer aux décisions qui peuvent être prises, en tout cas pour ce qui concerne l'avenir des salariés dans l'entreprise.
Merci beaucoup Monsieur Lepan de nous avoir accordé un entretien à Divergence FM. Bon courage pour la suite.
Merci.
Et ben voilà, retour là dans les studios à Démocratie d'entreprise. Il est bien ce garçon, hein. Il est si bien que l'ancien patron intraitable de Moulinex trouvait qu'il était un syndicaliste de haut vol. Donc il est très bien vu du grand patronat. On comprend d'ailleurs pourquoi ceux de la CFDT ne l'aiment pas trop. En plus, il est communiste, le mec. Il est vrai qu'on pourrait se croire revenu au bon temps de Georges Chégui, de Henri Krasuki. Bien, bon, bah, avant d'entrer dans le débat proboscopien, on va se détendre un peu avec quelques notes de musique appropriées en écoutant un morceau britannique, ou du moins, enfin c'est pas d'ici, de The Dynamics International Soul.
Worldwide, it's time to come together and unite as one. Reggae got soul version excursion with the Shaolin Temple Defenders and the Dynamics family. Irie, boy, to the meaning of the nation.
yeah. To the meeting of the nation. I say yeah. To the realm of communication, everybody. I say yeah. Everywhere around the world, there's people thinking just like you.
We need to stick together if you want to make the world better.
It just takes you and me to make this world a better place now. Nation upon nation, gotta join, make us a revolution.
Yeah, reggae soul come together, all the nations, Leon Nation. 69, border 33, we're all feeling fine.
To the meaning of a nation.
Le coup de pinceau du renard par Jean-François Gibert.
Est un film comique réalisé par Serge Gordaire en 1967. Les dialogues sont de Michel Audiard. Bernard Blier est dans le rôle d'un patron. Une grève surprise, bravo. 30 tonnes de barbac sur le carreau alors qu'on meurt de faim à Chandianagore. Hourra. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance. À la fin des années 60, ce discours patronal et la menace du chômage se voulaient une caricature et portaient à rire. En 2013, le même discours et le chômage dans sa consternante réalité appelle les larmes. Ce discours empli de pragmatisme économique est applaudi par les fatalistes de la mondialisation libérale de l'économie. Il est accepté et relayé par des experts canalisés et une presse de bon ton qui appelle de ses voeux un nouveau syndicalisme d'inspiration nord-européenne, dit de négociation et non conflictuelle, en prétendant que toutes les composantes d'une entreprise ont un destin commun. Toutes les composantes d'une entreprise n'ont pas toujours un destin commun. Au-delà des intérêts contradictoires qui la traversent, les uns qui prennent les décisions stratégiques et déterminent les règles de fonctionnement qui en découlent ont un destin dominé. Les autres ont un destin subi. Je paraphraserai pour une fois André Malraux en transposant le thème de la création artistique sur l'économie. Je le cite. La plus profonde métamorphose que crée l'homme, c'est celle d'un destin subi, un destin dominé.
Bon, bah, parlons peu, mais parlons bien, et tournons-nous vers nos camarades syndicalistes qui, dans le studio, trépignent avant de vous en mettre plein les oreilles. Bon, avec nous, bah, Serge Ragazaki, l'expert cégétiste prolétarien, Frédéric Moka, l'avocat de la CGT qu'il vaut mieux avoir avec soi que contre soi, et puis Roger Oustry, le détenteur de la Pravda, cégétiste, enfin Pravda, la vérité, que demande le peuple. Mais avant de revenir sur les thèmes qu'on a choisis, parlons un tout petit peu de flacons et de vin. Puisque alors là, bon, bah, ils sont trois et même quatre dans le studio, et donc évidemment, bah, ils ont amené chacun une bouteille, donc on n'arrête pas de boire là depuis une demi-heure. Avant d'aller plus loin, je vais m'adresser à Serge. Ce serait quoi un vin de syndicaliste? C'est un rouge qui fait tache? C'est un blanc qu'on boit jusqu'à la lie? Ou alors c'est un rosé pragmatique, option Le Pen.
Il n'est de meilleur vin que celui qu'on partage. C'est ça le vin du syndicaliste.
Ah, le syndicaliste, c'est bravo. Un partageux. Bravo. C'est un partageux. Bon, allez, file des flacons. Une petite provoscopie pour commencer. Ne vaut-il pas mieux être un ouvrier qualifié d'une grande entreprise qu'un petit patron d'une TPE, Serge?
Écoute... Écoute, là, pour les patrons des TPE, moi, je sais pas trop ce qui est...
Pitié patron, non, mais... pitié d'entreprise, que gros ouvrier d'une grande entreprise, c'est quand même plus confortable, un gros ouvrier d'une grande entreprise.
Bah, écoute, si j'en crois le dernier texte, en particulier l'accord du 11 janvier 2013, je pense que c'est quelque chose qui, il va falloir que tu revoies tout à fait ta vision des affaires. Puisque justement, ce texte est en train d'individualiser...
Jean-Marché sort de ce corps.
...est en train d'individualiser le code du travail. Et je ne vois pas en quoi cet ouvrier serait mieux protégé que le petit patron de la TPE. Mais j'ai une question quand même qui me vient. Mais pourquoi tu parles toujours du petit patron de la TPE et tu ne parles jamais du gros patron du CAC 40 ? C'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Tu sais qu'aujourd'hui, quand même, toutes les entreprises du CAC 40 reversent plus... de dividendes à leurs actionnaires que l'an dernier, et qu'il y en a 5 qui se distinguent, et particulièrement Sanofi. Pourquoi tu parles jamais de celle-là ?
Moi, regarde le petit patron de Peugeot, les actionnaires, ils ont tout perdu, ils n'ont pas reçu un sou, alors que les salariés de Peugeot, ils touchent encore le salaire tous les mois.
À part que les salariés de Peugeot, de Renault, tu as vu sous quelle pression ils sont mis ? Tu as vu le chantage ?
Et l'actionnaire de Peugeot qui a tout perdu. Son action vaut 10 fois moins depuis 5 ans. Il a tout perdu, il n'a pas un dividende, alors que l'ouvrier, il a quand même son salaire.
Alors, je ne suis pas sûr que l'actionnaire de Peugeot n'ait pas de dividende.
Ce n'est pas forcément le cas des actionnaires de Total.
D'abord, non, et puis
ça, c'est le côté totalitaire de la bolette.
Puis au-delà de ça, moi, ce qui m'interpelle, quand même, c'est l'État.
Ce qui m'interpelle, il a dit quand même, il n'a pas dit quelque part, c'est prouvé qu'il n'est pas socialiste. Parce que quand on est interpellé quelque part, on est socialiste.
On est interpellé un peu partout aujourd'hui quand on est socialiste, vu ce que les décisions que l'on prend.
Au sens noble du terme ou...
Non, moi ce qui donc... un peu sérieux sur les secteurs stratégiques de l'économie, c'est que moi, dans toutes les annonces qui sont faites jusqu'à présent, c'est que je ne vois pas quel est le rôle de l'État et comment l'État s'occupe de secteurs stratégiques. Si on regarde ArcelorMittal, je veux dire la production de la métallurgie en France, c'est ce qu'on appelle un secteur stratégique dans notre pays. À un moment donné, on nous annonce que l'État va mettre ses deniers dedans et prendre la participation, mais je crois que c'est ta deuxième question, tant pis, je commence avec. Et puis, finalement, il se retire. Si on regarde le marché de l'automobile, l'État, on nous annonce qu'il, peut-être, il viendrait prendre des parts dans PSA, mais pour l'instant, il ne le fait pas. Moi, ce qui m'interpelle, c'est comment l'État français aujourd'hui ne s'inquiète pas de secteur stratégique de l'économie. Ah, le secteur de la production, parce que c'est peut-être pas donné, mais il faut savoir que dans notre pays, le secteur de la production, le secteur industriel, continue de reculer. C'est-à-dire qu'on continue à produire moins de richesses via la production, via l'industrie, que sous l'époque de Sarkozy. Et ça devrait quand même un petit peu nous interpeller. Tu vois, c'est un petit peu plus compliqué que savoir si...
Bon, alors on va parler un peu de temps de travail maintenant, hein, un peu de temps de travail, oui. Si vous voulez bien. Moi, j'ai une petite question toute simple. Est-ce qu'un syndicaliste peut comprendre que la quantité de travail dépend de la quantité de commandes ?
Tu viens d'allumer des éclairs, là, tu vois ? Je vois Roger, là, qui... Alors... La quantité de travail, est-ce qu'elle peut dépendre de la quantité de commandes ?
Oui, de l'entreprise, parce que s'il n'y a pas de commandes, il n'y a pas de boulot. Hein.
C'est un peu simpliste, je trouve. C'est volontairement simpliste. Oui, mais c'est plus que volontairement. Parce que même quand il y a des commandes, on s'arrange pour les faire ailleurs.
Dans le cadre de l'émission, tu peux m'appeler maître, je suis l'avocat du patronat.
Non.
On a l'avocat de la CGT.
Non.
Il faut que le débat soit équilibré.
Oui, d'accord. Mais moi aussi, tu peux m'appeler maître parce que j'ai les diplômes équivalents au grade de maître.
Ah, d'accord.
Donc, voilà.
Il
n'y
a que des maîtres ici. Voilà. Bon, d'accord.
Non, mais bon, soyons sérieux quand même. La production, quand elle existe, au lieu de la réaliser dans notre pays, on va la réaliser ailleurs parce que c'est à moindre coût. Alors, quand est-ce l'État se donnera des moyens, comme il l'a fait en 1944 et 1945, quand il y a eu la construction de l'État-providence, avec des mesures sociales et des nationalisations pour se permettre d'avoir des leviers pour intervenir sur l'économie.
C'est toute nationalisation, la nationalisation, ça, on va reparler dans la dernière partie de l'émission, parce qu'effectivement, ouais, je crois que c'est probablement une des clés du problème qu'on peut avoir. Mais d'autre part, est-ce qu'il ne faudrait pas annualiser le temps de travail ? Et là, on voudrait quand même entendre l'avocat, quand même. Si, l'avocat, il faut qu'il cause, l'avocat. Si on était dans le prétoire, annualiser le temps de travail, est-ce que c'est légalement possible ? Est-ce que... juridiquement, est-ce qu'on peut l'annualiser, le temps de travail ? C'est-à-dire de dire à n'importe quel ouvrier ou ingénieur, peu importe. Bon, je dis n'importe quoi. Tu as 1600 heures de travail par an à faire. Bon, bah, une semaine, il n'y a pas de boulot, je ne sais pas quoi. Tu ne fais que 10 heures. La semaine d'après, tu fais 80 heures parce qu'il y a plus de boulot, etc. Est-ce que c'est possible ou pas possible ?
Oui, l'annualisation du temps de travail est possible. C'est un fait acquis, mais ça semble être remis en cause et on va même beaucoup plus loin aujourd'hui avec l'accord qui a été signé au mois de janvier, le 13 janvier 2013, où effectivement, on va beaucoup plus loin, puisqu'on cherche à instaurer un travail intermittent, un contrat de travail à durée indéterminée, individualisé, intermittent, avec effectivement tous les aspects négatifs que cela peut générer.
Et pourquoi ce serait négatif ? C'est-à-dire de travailler quand il y a du boulot, puis de ne pas travailler quand il n'y a pas de boulot.
Bah, ça serait
tout en ayant un salaire quand même tous les mois.
Oui, ça serait négatif pour différentes raisons. Déjà, surtout, les périodes non travaillées ne seront pas couvertes par l'assurance chômage. C'est le plus gros point négatif, effectivement, de ce contrat.
À la différence de ce qu'il y a en Allemagne, alors.
Exactement. Exactement.
Parce qu'en Allemagne, il y a une flexibilité, mais entre guillemets, sécurisée, enfin, quelque part. Quoi.
Bah, c'est tout à fait ça. Et c'est l'élément effectivement le plus négatif sur ce travail intermittent qui est en voie de généralisation dans le cadre de cet accord du 13 janvier 2013.
Et donc là, il y a effectivement un véritable problème. Du coup, on comprend pourquoi la CGT n'a pas signé la chose.
Pour ce point précis, mais aussi pour d'autres, puisque l'accord du 13 janvier 2013, à mon sens, est un véritable scandale, puisqu'il remet en cause effectivement les acquis.
C'est un scandale!
En matière du droit collectif, oui, c'est facile. Parce que c'est une remise en cause effectivement du droit collectif du travail, mais aussi des règles élémentaires tenant au droit individuel du travail. Il remet en cause une majorité des acquis des salariés aujourd'hui.
Mais en même temps, je veux revenir à Roger qui évoquait un petit peu la chose tout à l'heure. Les Français, les chiffres le prouvent, sont parmi les plus productifs du monde et probablement même les plus productifs du monde. Est-ce qu'on ne devrait pas réduire le temps de travail en fonction de la hausse de la productivité ? Puisqu'on sait produire plus en moins de temps, est-ce qu'il ne serait pas le moment pour la CGT, entre autres, pour les syndicats, de lutter pour ça ? Ou alors de dire, eh ben dans ces cas-là, on s'en fout, on ne produira pas plus. Maintenant, on veut bien travailler. Ce n'est pas travailler plus pour gagner plus, c'est travailler plus vite pour travailler moins.
L'histoire montre que le patronat, et en particulier le grand patronat, a toujours poussé à une productivité maximum, y compris des enfants. Quand on se battait pour que les enfants ne travaillent pas plus de 12 heures par jour, il y avait une énorme productivité. Et il a fallu attendre quand même, je rappelle, le repos hebdomadaire, ça remonte à 1906. C'est pas si vieux que ça.
Heureusement que la France est catho, hein, parce que sinon, on n'aurait pas eu le repos hebdomadaire.
Oui, mais en 1908, il y avait la Troisième République.
Vive l'Église.
Et on l'avait pas sous l'ancien régime, les 8 heures, hein, qui était la
religion. Sous l'ancien régime, avant la loi Le Chapelier de 1791, il y avait 153 jours fériés par an.
Oui.
C'est la loi Le Chapelier qui a supprimé tout, et les dimanches, et les congés, et les machins, et les bidules. Donc l'ancien régime, c'était le bonheur pour le prolétariat qui n'existait pas.
Non. C'est des raccourcis extrêmement... D'abord, il y a quelque chose qui est faux, c'est que les jours fériés qui étaient particulièrement nombreux et qui permettaient donc aux salariés de l'époque, qui n'étaient pas les travailleurs qu'on connaît aujourd'hui, d'avoir un certain nombre de repos, c'était souvent le samedi, on fêtait les saints. Les
saints, ah oui, la Saint-Martin, la Saint-Jean, voilà, la
Saint-Truc. Dans le cadre des confréries. Mais ça a été supprimé par le calendrier révolutionnaire.
Non, par la loi Le Chapelier, 1790.
par le calendrier révolutionnaire. Je m'excuse.
En plus,
je m'excuse.
Les Robespierristes.
Je m'excuse.
Rajouter une couche.
Non, la loi le Chapelier et le décret d'Allard ont interdit le droit d'association qui existait sous l'Ancien Régime au travers des confréries et ensuite interdit le droit de coalition, c'est-à-dire le droit de grève. Et ça a permis.
Ça, c'est comme le mariage pour tous qui entraînera l'autorisation du GPA.
Je termine.
C'est la même chose.
Ça a permis à tout le monde, d'après ces deux lois, de pouvoir réaliser ce qu'ils avaient envie d'entreprendre. Et donc, ça a été la naissance du capitalisme. Et d'un capitalisme complètement libéré, puisqu'on ne pouvait plus faire grève et on ne pouvait plus monter d'association.
On croira entendre Robert Robrieux et l'histoire intérieure du Parti communiste.
Non. Je voudrais rappeler quand même, parce que souvent quand on discute dans la rue, je suis sûr que de nombreux auditeurs que vous avez se posent ces questions-là. On dit en France, il y a beaucoup de grèves, mais il faut rappeler quand même qu'en France, l'histoire de la législation du travail, 1864, ça permet le droit de coalition, on rétablit sous Napoléon III le droit de grève, et on attend 20 ans, 1884, pour autoriser les syndicats. Et on reconnaît le syndicat dans l'entreprise, le délégué syndical, la section syndicale, à 1968. Alors je veux dire...
La peine, la CGT, d'être aussi contre 68. Hein. Heureusement qu'on l'a fait, nous, 68.
On n'était pas contre la CGT, contre 68. Hein. Là, c'est vraiment de la fabulation. Hein. C'est vraiment de la fabulation. Il n'y a qu'à relire tout ce qui s'est discuté pour établir le constat de Grenelle. Parce qu'il n'y a pas eu d'accord en 68. Ça a été un constat pour s'apercevoir que la CGT, en particulier au travers de son secrétaire général de l'époque, Georges Segui, a joué un grand rôle. D'ailleurs, on dit que les négociations...
Celui de briseur de grève.
Non, celui des négociations... Les grèves, non, parce qu'il n'y a pas eu d'appel à la grève générale. C'est les salariés dans les entreprises qui ont décidé en 68 la grève et la reprise du travail. Je vous rappelle à tous quand même que Georges Segui, quand il est sorti des dernières négociations qui ont abouti au constat de Grenelle, il est allé à Renault-Billancourt rendre compte aux salariés de Billancourt devant 25 000 travailleurs s'était passé. Et c'est eux qui ont décidé
qui
de ne pas
voir.
Poursuivre. Non.
Ils ont continué, ils ont refusé.
Parce que Georges Segui avait dit « Je ne suis pas mandaté par les salariés pour signer quelque accord que ce soit ». Puisqu'il n'y a pas eu d'appel à la grève générale, et je m'en remets à la base qui, elle, va décider.
Bon, j'arrête parce que sinon il va m'envoyer au
boulanger. Ça vient contredire, tu vois, la vision, tu vois, verticale, monarchiste, tu vois. Ça les énerve. Quand tu dis ça, tu remets ça dans les mains des travailleurs, ça les énerve.
Il va finir par me traiter de gauchiste aussi, il continue.
C'est pas loin.
C'est le concept de la démocratie qui existe dans la CGT.
Non, mais en plus, Yves, en 68, était un bébé, donc il ne peut pas parler. Moi, j'avais 20 ans.
Et moi aussi. J'étais à la CGT.
On voit la vieille molette là, dans ce coup-là. Bon, mais là, je voudrais qu'on passe un petit peu à autre chose, parce qu'il y a Michel Rocard, vous l'avez probablement entendu il y a quelques jours, il proposait de passer aux 32 heures.
Ah, le monsieur qui a créé la CSG, cet impôt que payent les travailleurs et pas les patrons. Ah, d'accord.
Ah, mais... Mais il m'énerve, celui-là.
Il fallait pas m'inviter.
Il m'énerve. Je me recroirais revenu en avril 68, quand je préparais les contre-manifs et tout le bazar.
C'est marrant, comment on peut avoir une position comme ça, être aussi réactionnaire, Yves.
Ah mais réactionnaire au sens que Marc vient du terme, c'est-à-dire vouloir retourner dans un passé qui fut glorieux. Quoi.
Des dates et des fêtes, s'il vous plaît.
Les fêtes sont têtues, monsieur Léniniste, en plus. Bon, je vois que tout va bien. Bref, Rocard, qui voudrait passer aux 32 heures. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt passer carrément aux 25, voire aux 22 heures? Mitterrand, en 80, il est passé des 40 heures aux 39 heures. On a vu que ça n'a rien donné concrètement au niveau de l'emploi. Jospin, en 97, il a fait pratiquement la même erreur en passant des 39 heures aux 35 heures, mais pas en un coup, mais étalé sur pratiquement 5 ans. Ce qui gommait, en gros, la hausse de productivité. Ça n'a pas peser sur l'emploi. Le chômage n'a pas diminué. Est-ce qu'il ne faudrait pas, et selon la CGT, taper fort et vraiment exiger, imposer une diminution du temps de travail, mais une très forte diminution du temps de travail?
On va revenir déjà aux 35 heures, puisque quand même toutes les études nous montrent aujourd'hui qu'on travaille globalement plus de 35 heures. Donc tu vois, déjà, il faudrait revenir à 35 heures. Quand tu dis, je ne vais pas me porter ici en défense du gouvernement Jospin, mais enfin, il y a eu quelques effets de la mesure sur les 35 heures du gouvernement Jospin, en particulier, même y compris en entraînement économique sur un certain nombre de secteurs qui ont bénéficié des 35 heures. Après nous, on a regretté d'autres éléments de la loi qui n'a pas permis d'aller au bout et qui a laissé beaucoup plus de flexibilité. Mais on ne peut pas poser des choses comme ça. Les années 80 ont été les années chômage.
Comme ça, on peut pas, si on peut.
Mais non, 90, c'était les années flexibilité. Et on cherchait, y compris les sénateurs de droite, proposer la réduction des temps de travail en échange de flexibilité. L'idée qu'il y avait, mais ça concerne la production, c'était de dire, on a des machines aujourd'hui qui sont en capacité de produire 100% du temps, et on aurait bien besoin de salariés qui soient en capacité, eux aussi, de produire et d'être au top de la production 100% du temps travaillé. Et on est dans ces logiques-là. Et ce que tu demandes, là, mais ça va être exaucé, là, l'accord qui a été signé par le MEDEF et la CFDT, et puis deux autres, tout petits. Ça va être exaucé.
La CGT est contre la diminution du temps de travail. Putain, je comprends pas.
Non, non, mais ça va être exaucé. Puisqu'on va proposer aux salariés, dans le chantage à l'emploi, de réduire leur temps de travail et de le réduire leur salaire. C'est ça qui va être proposé. Si on parle d'un point de vue de collectif, ceux qui travaillent de plus en plus et travaillent plus de 35 heures. Le véritable scandale, c'est tous ceux qui ne travaillent pas, qui sont exclus du monde du travail, et tous ceux qui sont précarisés au travail. C'est de cela dont il faudrait s'occuper. Et ça, c'est un véritable scandale.
C'est un scandale.
Pour en revenir à cette question, en 68, 35% d'augmentation du SMIC, et quand on regarde la courbe du chômage et les chiffres officiels, sur quelques mois, il y a une quasi-disparition du chômage. Ça doit nous interroger, quand même.
Je me souviens des manifestations de 68, notamment du fameux 13 mai 68, où il y avait des panneaux disant « Nous ne passerons pas le cap des 400 000 chômeurs ». Donc on n'était pas tout à fait dans la même situation. Mais par contre, moi, je voudrais revenir sur le temps de travail, parce que quand même, la France est un des pays d'Europe où le temps de travail est le plus élevé, même avec 35 heures.
D'accord.
Moi, je voudrais quand même poser une question, une vision du syndicat. Moi, je suis un profane. Puis je me dis, voilà. J'ai entendu condamner les 35 heures pendant je ne sais combien d'années. Dans le même temps, je vois qu'effectivement, on met sur une table de négociation la possibilité d'aller vers un chômage partiel. Et dans le même temps, on a eu un président de la République qui a mis, lui, des primes pour les heures supplémentaires. Alors, est-ce qu'effectivement, dans tout ça, c'est la question que je me pose, c'est est-ce que tout simplement, ce n'est pas toutes ces mesures et tout ce se fouille si ce n'est pas tout simplement une volonté de diminuer tout simplement le coût du travail. Voilà, et j'aimerais avoir l'opinion, disons, des syndicalistes sur cette interrogation-là.
Bah, écoute, moi je crois qu'effectivement, ce qui est à l'ordre du jour, mais on l'a regretté dès le premier discours de François Hollande tout de suite après les congés d'été. C'est lorsqu'il a repris dans son discours la compétitivité, le coût du travail, et que c'était ça qui posait problème. Pour reprendre une image que chacun comprendra, et bon, lorsque je pose un billet de 10 euros sur la table, je peux revenir le lendemain, si personne n'a travaillé, il restera 10 euros. Voilà. Nous, on considère qu'il y a deux logiques qui s'affrontent aujourd'hui. Donc on considère que le travail crée de la richesse. Et qu'il faut bien qu'il y ait une activité humaine, voilà, qui fasse en sorte de produire, de créer, d'imaginer, de produire, que ce soit du service ou que ce soit des biens matériels.
C'est la preuve qu'il a lu le capital.
De façon à créer de la richesse. Le capital tout seul...
Il a même lu le livre 1, chapitre 1.
Ne crée rien. Ce qui est posé aujourd'hui, à mon sens, c'est de produire autrement. J'aimerais qu'on revienne, parce que vous êtes des spécialistes là.
Autrement, c'est social.
Vous recevez beaucoup de monde là, du pourtour Montpellier-Rhin, des élus politiques. Vous traînez dans les sphères. Hein. Moi je me pose des questions en Languedoc-Roussillon. Est-ce qu'il n'y aurait pas matière à produire autrement quand on regarde tout ce qui est ouvert sur le développement durable ? Et puis, ce n'est pas pour faire de l'écologie à 2 francs 6 sous. C'est une véritable question. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de... Est-ce qu'on va aller vers une filière bois ? Est-ce qu'au niveau de la politique des transports, on arrête le tout camion, on revient peut-être vers du fret ferroviaire ? Est-ce que, voilà, il y a toutes ces questions qui sont comment on produit différemment ? Comment on a un véritable entreprise et un pôle énergétique public qui permettent, y compris de compenser les manques. Ça veut dire intervention de l'État, intervention des politiques publiques. Cette question-là, elle est posée. Comment on produit autrement ? Il y a aujourd'hui, du point de vue économique, des chantiers qui restent à ouvrir. Bon, et moi, je suis un peu étonné que ce gouvernement soit si timoré vis-à-vis de ces chantiers à ouvrir.
Comment t'arrives à défendre ces gens-là, quoi ? C'est pas possible. Comment t'arrives à les défendre ? Mais ils sont de mauvaise foi, c'est pas possible.
Non, ils sont pas de mauvaise
foi. Ils sont innocents, c'est tellement facile.
Machin.
Juste une remarque par rapport à ce qui a été dit sur la filière bois, je suis très très méfiant, même si je pense que c'est une bonne filière, mais en tout cas pas pour le sud de la France, parce que l'utilisation du bois, on le voit très bien dans le bâtiment, est pas adaptée effectivement au climat du Midi. Mais moi je voudrais revenir juste une seconde sur ce qui a été dit. Le véritable problème, à mon avis, d'un point de vue strictement économique, si on reste dans le chapitre 1 du Capital, comme le disait Yves, de manière, disons, humoristique, mais mal à propos, c'est le fait qu'effectivement...
Comment ça, mal à propos ?
Ben, je vais l'expliquer. C'est effectivement une théorie qui est classique et reconnue par tout le monde. C'est le fait qu'effectivement, le travail n'est pas rémunéré à la hauteur de la valeur qu'il crée. Donc, il y a une plus-value. Sauf que ça, c'est un système très ancien du capitalisme, c'est-à-dire de la révolution industrielle. Le véritable problème aujourd'hui, c'est pas la plus-value et le système donc inégalitaire de la rémunération du travail. Le véritable problème, c'est que la spéculation se fait sur le capitalisme financier et pas sur le capitalisme industriel. Et donc, enfin, moi, je suis pas un grand spécialiste de l'économie, même si ça m'intéresse. Mais quand je vois que les gens qui ont placé leur argent, les gens qui ont placé le 1er janvier 2012 de l'argent sur les valeurs du CAC 40 ont récupéré 14,3% avec une inflation à moins de 2% et des rémunérations du travail, un SMIC qui va augmenter de 0,2, 3, 4%. Donc, il y a des
rémunérations des fonctionnaires à 0,00.
Voilà. Donc, moi, je prends ma retraite de fonctionnaire dans la semaine. Donc,
bonne chance.
Mais c'est une mauvaise plaisanterie.
Ils n'ont pas fait grève l'autre jour. Hein.
Mais c'était un véritable problème.
Grève catégorielle demain, là, ils font grève. Au niveau de la fonction.
Non mais est-ce qu'on peut revenir sur le problème du rapport de la transformation du capitalisme industriel au capitalisme financier, qui est une vraie rupture, quoi. Bon, qui est pas récente, hein. Elle existe depuis les années, depuis le début du capitalisme industriel en réalité.
Mais aujourd'hui, oui. L'État, contrairement à ce qui existait en 1944-1945, n'a plus les moyens industriels de développer une politique industrielle. Il a été pris la question de la filière bois. La filière bois, moi je m'excuse, on a dans nos départements, on en produit du bois. Il suffit de monter en Lozère. Nous sommes le pays d'Europe qui a la plus grande forêt. Et la production de pâte à papier est déficitaire en France.
Et des forêts plus importantes qu'au XIXe siècle.
Eh oui, et je voudrais comprendre pourquoi. Je voudrais dire, il y a des emplois industriels à créer. Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait une volonté politique qui s'appuie sur les expériences du passé qu'a eu le mouvement ouvrier, le mouvement syndical dans ces dernières décennies pour arriver à construire autre chose.
Voire les départements dans certains cas, puisque on commence à voir des non plus des nationalisations, mais des régionalisations d'entreprises, voire dans certains cas des départementalisations d'entreprises. Bon, ça va être l'objet de notre petit débat juste après. Parce que là, si j'ai bien compris, vous êtes complètement ouvriériste. Vous croyez en la lutte des classes. On va revenir un petit peu dans
Tu sais, la lutte des classes, c'est les patrons qui en parlent le mieux.
Et on va écouter un tout petit morceau de musique.
Il vaut mieux la lutte des classes que de la lutte des places.
Qui vante la gloire des héros de la classe ouvrière. Bref, Working Class Hero de Izzy Dawn. Et on reprend l'antenne après.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can follow their rules. A working class hero is something to be. Yes, a working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, and then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. Yes, a working class hero is something to be. Sex and TV, and you think you're so clever and classless and free, but they're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. Yes, a working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you wanna be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. Yes, a working class hero is something to be.
La chronique du loup, alias Yves Le Bozec.
Bien, il fut un temps que les moins de 100 ans ne peuvent pas connaître, faute d'être historiens. Un temps où le grand soir promettait une société juste, avec des lendemains qui chantent. C'était du côté des grands boulevards parisiens, mais surtout dans les rues enneigées de Pétrograd. Et les lignes d'avancée, les usines aux ouvriers, la terre aux paysans. Mais de la théorie à la pratique, celui qui fut comparé à Uburoy trahit la cause des prolétaires au point d'inventer une nouvelle forme de capitalisme, vicieux ou possible, le capitalisme d'État, qu'il appela la NEP en 1921. En fait, l'État devenait le plus grand patron qui soit, et de patron à exploiteur...
En d'autres temps, plus récents, un certain Tito inventa l'autogestion socialiste sur fond de non-alignement, dont la série un pas en avant, deux pas en arrière, bref, une façon déguisée de fédéraliser le travail sans que les salariés ne soient réellement aux commandes. Plus récemment encore, dans les années 70, du côté de Besançon, les ouvriers de l'IP se sont emparés des leviers de l'entreprise et ont relancé la production pour leur propre compte. Danger immédiat pour le grand capital, comme l'aurait aboyé le camarade marché. Ni une ni deux, un certain Claude Neuschwander fut parachuté sur les conseils de quelques rocards pour remettre de l'ordre dans la boutique et bouter hors des usines ses salariés présomptueux. Le capital n'est pas un maître entre des mains sales. Et puis, ici ou là, des coopératives ouvrières ont vu le jour ces dernières années. On voyait quelques salariés reprendre une entreprise et la relancer sur les chemins de la croissance, sans même l'aide de l'État, privatiseur, quoique jospinien. Moulinex, entre autres, en fit les frais, Jospin déclarant « l'État ne peut pas tout ». Et pourtant si, l'État peut tout, même dans un État de droit. Et l'imagination, à la mode de Cohn-Bendit, apostrophant Hollande au Parlement de Strasbourg l'autre jour, de prendre le pouvoir. Et si l'État osait, osait quoi ? Bah, tout simple. Prenons une entreprise dont les patrons veulent fermer les portes pour quelque raison que ce soit. S'ils ont raison, car elle n'a plus d'avenir, bon, il faut les laisser faire. S'ils ont tort, car les salariés pensent qu'elle a un avenir, ben alors il faut oser. Oser quoi ? Eh bien que l'État exproprie alors les patrons indélicats et nationalise temporairement l'entreprise en question. Et ensuite qu'il cède l'entreprise à une coopérative ouvrière, une SCOP, qui assumera alors la bonne marche de la dite entreprise. Et ces derniers d'empocher enfin le fruit de leur labeur, comme une espèce de soviète à la française. Alors messieurs des centrales syndicales, messieurs de l'administration étatique, putain, osez ! On sera non pas avec vous, mais derrière vous, pour vous pousser quelque peu si nécessaire, avec un petit coup de pied dans le cul s'il faut. Bah, c'est ça le progrès, non ? Bon, décidément, le loup, il est ingérable. On ne sait plus s'il est rocardien ou con-bendidicien, enfin, on ne sait pas trop. Toujours est-il,
t'en as pas des vivants ?
Toujours est-il qu'il est encore et toujours libre de ses propos et qu'il continue à vivre dans la divergence. Bon, eh bien, écoutez, dans l'entre-débelette, pardon, bah, y a un beau Serge, incarné par le camarade Ragazaki, responsable départemental de la CGT, un joli avocat, Frédéric Mora, le quasi-procureur de la dite centrale, et Roger Oustry, le Alain Decaux de la CGT, les trois en compagnie des trois inséparables. Je parle évidemment du loup, du renard et de la belette. Bon, bah on va revenir au sérieux de la chose, et puis voyons ce que ça donne quand on provoscope un tantinet nos syndicalistes. Allez, une petite provoscopie pour se mettre en bouche et puis donner du sens au son. Pensez-vous être représentatif quand seulement à peine 8% des salariés sont syndiqués? Vous représentez personne, quoi.
Une nouvelle fois, ça fait au moins trois fois que je réponds à cette question.
Ouais, bon.
Oui. Allez. Alors, la représentativité, mon cher loup, c'est donc assis sur les élections professionnelles. Et lorsque les élections professionnelles se passent dans l'entreprise, 70% des salariés votent. 70% des salariés votent dès lors que l'élection se passe dans l'entreprise. Ça fait une belle marge de progression pour toutes celles et tous ceux qui nous gouvernent à la mairie, au conseil général, à la région et au niveau du gouvernement. Ça devrait faire des envieux. La représentativité, ce n'est pas le taux de syndicalisation. C'est donc deux éléments différents. C'est un peu comme les serviettes et les torchons. Et donc, sur ce qui est du taux de syndicalisation...
Qui sont les serviettes, qui sont les torchons, là.
Sur ce qui est du taux de syndicalisation, je le redis, si c'est, de façon sans le dire, un comparatif avec ce qui se passe plus au nord...
En Allemagne.
Voilà.
Voire en Angleterre, voire aux États-Unis même.
En Allemagne, c'est un cas particulier, puisqu'il y a des branches d'entreprise où la syndicalisation est obligatoire. Donc effectivement, ça explique ces chiffres.
Et donc, comme ça vient d'être rappelé très justement, ma position, en tout cas, et la position de la CGT, c'est que je préfère être syndiqué par liberté que par obligation. Et donc, je considère qu'aujourd'hui, 8% de syndiqués, ce n'est pas suffisant, donc il va falloir en gagner plus. Mais c'est un acte de femmes et d'hommes libres. Et je crois que de ce point de vue-là, on s'inscrit dans toute la filiation qui devrait nous animer toutes et tous depuis 1789. C'est dans ça que moi je me reconnais. Être un homme, une femme libre de se syndiquer, de faire valoir ses droits, de parler, d'être citoyen dans l'entreprise. Et c'est un acte qui n'est pas facile, qui n'est pas bien compris, et c'est un acte d'expression de la liberté de ce que nous pouvons être, et toutes ou tous. Et donc, de ce point de vue-là, je crois que c'est quelque chose d'essentiel.
D'être maître de son destin.
Je crois que c'est quelque chose d'essentiel parce qu'effectivement, en Allemagne, eh bien, les salariés ne se battent pas plus pour leurs droits qu'en France. Il faut savoir qu'avec 8% de syndicats en France, nous restons le phare de l'Europe, de ce point de vue-là. Et qu'effectivement, les salariés qui aujourd'hui se battent en Grèce, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, partout, ils regardent ce qui est en train de se passer en France. Et ils attendent des salariés françaises et salariés français qui, effectivement, quelles avancées vont pouvoir conquérir parce que ça aura conséquence pour l'ensemble des salariés d'Europe. Alors, et je crois que ça, c'est une dimension qui n'est jamais prise en compte si on s'arrête au, effectivement, 8% de syndiqués. Mais ça s'améliore sur le département de l'Hérault, puisque tu sais que la semaine dernière, on a fêté nos plus de 10 000 adhérents.
Parce que si j'ai posé une question, il n'a pas répondu. À quoi il avait botté en touche, j'en sais rien.
Pas bon, du tout.
Mais comment tu peux les défendre, ces gus, là, ces camarades là.
Simplement parce qu'il n'y a c'est pas défendable, de richesse là. Que d'hommes, comme disait Forestier au niveau des 30 Glorieuses. Et je pense que la défense, effectivement, va devoir être d'autant plus importante, sans vouloir y revenir, mais c'est une nécessité, avec l'accord, effectivement, du 11 janvier 2013, qui va créer. Quand on le lit, et j'ai entendu tout à l'heure effectivement Thierry Lepin le dire dans le cadre de son interview, où il était nécessaire d'une information de l'ensemble des salariés et de l'ensemble effectivement des personnes qui sont concernées par cet accord du 11 janvier 2013, il y a une précarisation totale qui va intervenir et une remise en cause totale du droit du travail. Et ça, je trouve ça...
Et est-ce que tu peux expliquer un peu plus en quoi il va y avoir une remise en cause du droit du travail ?
Alors le droit du travail... La remise en cause va être à deux niveaux. D'abord au niveau du droit collectif, on va remettre en cause les prérogatives de certaines instances, représentants du personnel en particulier, qui vont être absolument fragilisés dans le cadre de cet accord, comité d'entreprise, éventuellement CHSCT, c'est important.
Quoi, c'est quoi ça ?
Comité d'hygiène, de sécurité, des conditions de travail, comité d'entreprise aussi. Et effectivement, cet accord remet en cause les prérogatives qui étaient jusqu'ici arrêtées au niveau de ces instances et de l'équilibre qui avait été trouvé.
Bon, ça, d'accord.
C'est une première chose.
On s'en fout. Pour le salarié complet, direct, lui.
Le collectif, on s'en fout. Maintenant, il y a l'aspect droit individuel du travail. Il va y avoir une remise en cause totale, là encore, des prérogatives qui ont été arrêtées jusqu'à ce jour et qui sont contenues dans le cadre du Code du travail et qui ont été validées, confirmées. Façonné, mais en tout cas confirmé par la jurisprudence et la Cour de cassation, mais également les juridictions du fond, conseil des prud'hommes et cour d'appel.
Concrètement, pour le salarié, ça va changer quoi, ça, ce soir ?
Mais il y a beaucoup de thèmes dans cet accord. Thierry Lepin le disait, il disait qu'effectivement, il y avait d'énormes difficultés au niveau de la compréhension de cet accord, parce que ça avait été rédigé de manière MEDEF, oui, mais quand on arrive à lire cet accord jusqu'au bout, on se rend compte qu'il y a une remise en cause des règles fondamentales au niveau des licenciements pour motifs économiques.
C'est-à-dire concrètement, ça veut dire quoi pour le salarié ?
Les licenciements pour motifs économiques vont être beaucoup plus faciles, plus rapides, et on va donner beaucoup plus de prérogatives à l'employeur. Au niveau effectivement de ces licenciements, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un droit fondamental du salarié qui est de saisir le conseil des prud'hommes, par exemple, et ce n'est qu'un point particulier.
Pourquoi
de l'accord.
Le salarié n'aura plus le droit de saisir les prud'hommes ?
Si, saisir les prud'hommes, mais avec un délai très restreint, très réduit. Aujourd'hui, il y a une...
C'est-à-dire concrètement pour les auditeurs ?
2 ans, 24 mois, alors qu'aujourd'hui, ça a été réduit en 2008. On avait la possibilité sur... un caractère indemnitaire pour des dommages et intérêts, par exemple, de saisir avec une prescription trentenaire. C'est-à-dire on avait 30 ans pour saisir. Ça pouvait apparaître important, mais c'était ainsi. Ça a été réduit en 2008 à 5 ans. Et aujourd'hui, cet accord réduit effectivement la capacité de saisine, le délai de saisine à 24 mois. sachant qu'il y a un deuxième problème qui sous-tend le premier, c'est-à-dire que les salariés pouvaient saisir, lorsqu'ils saisissaient, en demandant par exemple un rappel de salaire sur 5 ans, la prescription était quinquennale. Ben aujourd'hui, on ne pourra demander, dans le cadre de cet accord, qu'un rappel de salaire sur 36 mois.
Est-ce que, là je m'adresse à Serge, est-ce qu'au niveau de la CGT, sur le site internet de la CGT, est-ce qu'on peut trouver tous ces éléments-là qui expliqueraient aux salariés en quoi ils vont se faire avoir?
Oui,
cette décision.
Ils sont en train d'être mis en ligne, mais pour celles et ceux qui voudraient avoir l'esprit critique, je les invite à consulter aussi le site du syndicat des avocats de France, les déclarations d'un certain nombre de cabinets d'expertise qui sont vent debout sur contre cet accord.
Le salarié, comment il fait pour être vraiment informé, puisqu'il n'est pas franchement informé sur ce coup-là, quoi.
Il va sur le site de la CGT, d'accord. Et puis on a des analyses.
Donc il fait quoi, cgt.com, terminé sur Google et,
Non, cgt.fr.
.fr, bon, ok.
Voilà. Et puis ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans cet accord, on nous a annoncé lors de la conférence sociale qu'on allait vers une sécurisation de l'emploi. Or, on ne sécurise pas ça. On sécurise l'employeur lorsqu'il va procéder à des suppressions d'emplois. Il faut savoir que la rupture conventionnelle, c'est déjà plus d'un million d'emplois supprimés, d'accord ? Et que ça a permis en particulier, alors qu'on est en pleine période de crise, d'avoir un niveau de plan de sauvegarde de l'emploi équivalent à celui de 2007. C'est-à-dire que les entreprises ne sont pas passées par des accords collectifs pour réduire leurs effectifs, mais ont usé de la rupture conventionnelle. On est en train de changer de mode, à savoir que jusqu'à présent, on a considéré que le collectif, c'était notre force, c'était les accords collectifs qui nous sécurisaient le risque. C'est le sens de notre protection sociale. Je vais très vite, mais ça devrait faire l'objet d'une autre émission. Aujourd'hui, on est en train d'aller vers une individualisation. C'est le salarié individuellement vis-à-vis de son employeur, et puis c'est demain... Parce que la protection sociale, c'est du salaire socialisé, mais demain, ce qu'on essaie de casser, c'est-à-dire que ça va être non plus le collectif, la retraite par répartition, le salaire socialisé, la richesse créée dans l'entreprise qui donne des droits et des garanties en termes de santé, d'accident du travail, de retraite ou de prestations familiales, mais c'est les droits que chacun acquiert individuellement. Et on est en train de changer de mode. Pourquoi ? Pour aller très vite. C'est la question de la répartition des richesses qu'on ne veut pas remettre en cause. Et effectivement, tant qu'il n'y aura pas un gouvernement qui décide de s'attaquer à ça,
justement.
On ne remettra pas en cause. Mais sur ce qui va changer pour les salariés, il y a un élément fondamental, par exemple, qui concerne la conciliation. J'aimerais que Frédéric nous en dise deux mots. À savoir qu'aujourd'hui, on pouvait aller... La conciliation n'est pas du tout usitée par les employeurs, qui la refusent systématiquement au conseil des prud'hommes, et qui revient aujourd'hui comme une actualité. Donc, il faudrait voir pourquoi. Donc, à la fois le droit des salariés à aller au conseil des prud'hommes qui est remis en cause, mais y compris le droit des juges à juger. Et donc là, on a un élément important. Il faut savoir que cet accord, sur plusieurs dispositions, est contraire à des législations internationales, OIT, Charte des droits de l'homme, ou Charte sociale.
Si les juges n'ont plus le droit de juger, ce serait presque une bonne nouvelle. Mais...
Non, mais on cherche à remettre en cause, effectivement, l'intervention du juge, parce que le juge a une capacité, effectivement, d'appréciation, et que tout résulte, ou en tout cas tout remonte au préjudice qui est effectivement subi par le salarié, que l'on soit dans le cadre d'une démission extorquée, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou autre. Au cas d'espèce, effectivement, comme le disait Serge, cet accord remet en cause le principe même de conciliation tel qu'il est aujourd'hui, et je pense qu'on avait trouvé un équilibre. Très sincèrement, entre les partenaires sociaux, entre les membres du Conseil des prud'hommes, c'est effectivement salariés ou employeurs. La conciliation est remise en cause. Pourquoi ? Comme vous le savez, dans le cadre de la procédure prud'homale, en deux mots, audience de conciliation, sauf dans certains cas, en cas de liquidation judiciaire ou de requalification de CDD, mais ce sont des cas à la marge. Et puis, après la conciliation, si l'on ne peut pas se mettre d'accord, audience de jugement. Dans le cadre de l'audience de conciliation, les parties sont présentes, ou en tout cas doivent l'être, et on discute, on partage, on voit effectivement quelle est la possibilité d'accord et la possibilité de trouver un arrangement, une conciliation. C'est le but effectivement de la conciliation. On ne plaide pas, on ne fournit pas de pièces. On voit comment on peut se mettre d'accord par référence aux demandes qui ont été présentées par le salarié. Et là, il peut y avoir un accord, mais un accord qui n'est pas quantifié, qui n'est pas bloquer entre effectivement des règles qui sont posées de par la loi ou dans le cadre de cet accord, ou dans le cadre de la loi bientôt, puisque Michel Sapin a dit que l'accord allait être transité effectivement en tous ces éléments à la virgule près dans le cadre de la loi, ce qui à mon sens poserait un problème majeur. On se met d'accord en fonction du préjudice subi par le salarié, en fonction de ce que l'employeur veut donner et de ce que le salarié est prêt à accepter. C'est effectivement une conciliation au véritable sens du terme. Ici, dans le cadre de cet accord prévu et qui doit devenir loi, en tout cas qui le gouvernement souhaite que ça devienne une loi, on va être cadré en fonction de règles impératives où vous avez des dommages et intérêts qui seront en fonction de l'ancienneté du salarié. Je reprends l'accord. Entre 0 et 2 ans d'ancienneté, 2 mois de salaire. Entre 2 ans et 8 mois d'ancienneté, 4 mois de salaire. Entre 8 ans et 15 ans d'ancienneté, 8 mois de salaire. Entre 15 ans et 25 ans, 10 mois de salaire, etc. Et au-delà de 25 ans, pour terminer, 14 mois de salaire. On se rend compte qu'on est dans le cadre d'une situation qui est très défavorable au salarié. Pourquoi ? Parce que les dommages et intérêts perçus vont être très nettement inférieurs. Et ça, ce n'est pas mon expérience qui le dit. Mon expérience, oui, mais pas que ça. Si vous voulez, c'est la pratique. Et il y a des statistiques qui ont été produites, au niveau en particulier du Conseil supérieur de la prud'homie, où effectivement, on se rend compte que les sommes qui sont allouées et en conciliation, dans le cadre de la conciliation, c'est-à-dire de l'entente employeur et salarié, mais également éventuellement audience de jugement, sont largement supérieurs à cela. Donc vous avez un système, un accord et éventuellement une loi qui va cadrer des sommes à minima en fonction de l'ancienneté du salarié, véritablement à minima. Ça, c'est un premier problème majeur. Deuxième problème qui apparaît, c'est que compte tenu de ces sommes qui vont être cadrées dans le cadre de la loi éventuellement, suite à cet accord qui a été signé effectivement par des syndicats, on pourrait y revenir, en tout cas qui a été rejeté, et par la CGT, et par Force ouvrière. Vous avez des salariés qui vont peut-être être tentés par l'acceptation en conciliation de ces sommes à minima, contrairement à ce qu'ils pourraient gagner ou ce qu'ils auraient pu éventuellement discuter dans le cadre d'une audience de conciliation si ce dispositif n'existait pas. Problème qu'il y a, et là on rebondit mais en deux mots, nous sommes dans le cadre d'une situation prud'homale où il y a des délais, selon les sections, extrêmement longs. Par exemple, à Montpellier, section commerce, où on est renvoyé à plus de 14 mois, 13-14 mois, entre la conciliation et le jugement, en tout cas 12 mois certainement, parfois plus. Et dès lors, le salarié peut être tenté à l'audience de conciliation. C'est un autre problème, la durée des instances prud'homales, on pourra en parler, on pourrait faire une émission rien que sur ça. Le salarié peut être tenté à l'audience de conciliation d'accepter ce dispositif qui va être cadré de par l'accord aujourd'hui et de par la loi très certainement à venir, si on n'arrive pas effectivement à aller à l'encontre. Et ça pose un problème majeur parce que ces sommes sont arrêtées véritablement à minima et très en deçà de ce que le salarié peut percevoir. Ce n'est qu'un élément effectivement de l'accord qui permet de mettre en évidence tout la remise en cause des droits du salarié. Il y en a beaucoup d'autres, bien sûr.
Au-delà de tout ça, moi, j'aurais deux questions. Une pour Roger et puis une autre pour Serge. Pour Roger, enfin, ça n'empêche pas les autres d'intervenir. Si j'en reviens justement à ce que Thierry Pan disait dans son interview...
Le Pan, pardon.
Pour une démocratie d'entreprise. Quel peut être le rôle de l'État aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il a été ? Tu nous en parlais tout à l'heure en 44, etc. Et tu disais qu'il n'avait plus les moyens. Et bien aujourd'hui, là, comment ça peut se passer ? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, plutôt pour Serge, mais pourquoi pas pour les autres. Est-ce que les salariés auraient la compétence pour diriger une entreprise ? Alors, le rôle de l'État, et puis est-ce que les salariés sont compétents ?
Pour notre ami historien, je voudrais rajouter une petite question. Il y a deux syndicats qui n'ont pas signé ces accords, c'est-à-dire la CGT.
Oui, la CGT et Force ouvrière.
Et Force ouvrière. Est-ce qu'on n'est pas dans le positionnement actuellement syndical et politique vers un congrès de tour à l'envers et une réunification de la CGT ?
Ça, l'avenir nous le dira.
Belle question, mais je n'y crois pas vraiment.
C'est pas le congrès de Tours. C'est 47, le plan Marshall.
Mais quand je disais congrès de Tours, c'est parce que, effectivement...
Ça, c'est politique, ça.
Oui, je sais bien, la charte d'Amiens... Allons.
La vieille scission de 48, quoi. Voilà, mais... Novembre 47...
Non, mais la scission de 48 des CGT-CGT-FO, elle est liée à la rupture du tripartisme politique. Enfin, ne nous faisons pas quand même d'illusions.
Donc au plan Marshall.
Donc le lien qui existe normalement entre les syndicats et les partis politiques, même s'il y a une charte d'Amiens.
Bon, Roger, est-ce que l'État peut quelque chose ?
Oui, il peut.
Il peut quoi ?
Par exemple, moi,
t'es pas jospinien.
Non. Moi, je suis un syndicaliste de la CGT depuis 1966. Donc, moi, après tous ces qualificatifs, tous ces... Je ne savais pas qui c'était, Jospin, moi, en 66. Et, je veux dire, il a fait...
C'était un membre de l'OCI.
Voilà, oui, ça, je le sais depuis...
Jusqu'en 87.
Voilà, et comme Rocard criait... bon, un certain nombre de choses, comme Bendit, a vociféré sur la CGT. J'ai lu un certain nombre de textes qui pourraient être republiés aujourd'hui et clarifieraient les choses. Mais je pense que l'État, il a deux moyens. Le moyen économique, s'il décide de prendre à main un certain nombre de leviers, puis l'État, il légifère. L'État, il légifère.
Quel moyen, l'État, quel levier ?
L'État, il légifère. Et moi, je vais faire part d'une expérience personnelle. J'ai siégé pendant plus de 10 ans au comité d'établissement régional des cheminots de la région de Montpellier. Et quand nous avions des réformes de structure, à ce moment-là, on consultait le CE. Et nous faisions appel à un certain nombre d'experts économiques qui faisaient formuler des contre-propositions. Puis quand nous votions sur 11 élus, il y avait parfois 11 élus qui étaient pour les propositions économiques et il n'y avait que le directeur qui, lui, avait droit de veto. Alors qu'on donne des moyens supplémentaires aux élus des comités d'entreprise ou des comités d'établissement pour que les licenciements, il y ait des droits suspensifs pour qu'ensuite on prenne en compte la possibilité de formuler d'autres contre-propositions économiques.
Du coup, Roger Oustry, c'est... Je roule pour vous. Serge, alors, est-ce que les salariés, ils ont la compétence pour diriger une entreprise ?
Oui.
L'ouvrier de base, machin, qui a bac moins 12 et tout, quand même, il ne peut pas diriger une entreprise.
Est-ce que se pose la question des fois dans l'autre sens ?
Mais, donc, je dis oui. Hein ? Bravo. Je dis oui et je reviens sur une question qui est importante parce qu'il me semble que si tu veux que ça reste dans l'histoire radiophonique, la question qui vient d'être posée sur ce qui se passe avec l'accord.
Personne n'a posé la question, il n'y a que toi qui l'a posé.
Non, ça vient d'être posé là sur le lien CGT, Force ouvrière, Congrès de Tours à l'envers.
Moi
je crois qu'effectivement. On est au début, mais je crois que c'est un marqueur de l'histoire du syndicalisme, ce qui est en train de se produire. Ouais. Parce que moi je suis pas de cette veine-là, mais la CGT, c'est un syndicat qui lutte pour la transformation sociale. Mais je pense que ce qui vient d'être signé, ça n'est pas non plus du syndicalisme réformiste tel que la CFDT se définit son syndicalisme réformiste. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a une modification.
Est-ce que vous croyez pas que le patronat
qui est en train de se faire ?
Est-ce que vous croyez pas que le patronat est en train de renverser l'histoire ? En laissant croire, c'est une question.
Il ne reste plus que 2 minutes.
Tu vas me laisser terminer, s'il te plaît.
Ah, mais il n'y aura pas le temps de la réponse.
il renverse l'histoire en se disant qu'il est indispensable et que c'est lui, en fin de compte, qui fait le bonheur de l'humanité. Alors que jusqu'à présent, je crois, c'était les gens qui l'entouraient qui faisaient encore, en quelque sorte, ce statut de patron. Est-ce qu'il ne renverse pas l'histoire, en quelque sorte. Là, tu me laisses pas assez de temps pour développer.
Non, mais c'est que... Voilà, ça, c'est le temps. C'est la minute, 90 minutes, il y a une chose. Donc, moi, ça, j'ai pas bien compris si la CGT est potée pour les scopes ou pas.
On n'a pas abordé la question.
Je crois que je t'ai répondu, mais je crois surtout que c'est le dernier épisode. C'est quand même pas l'essentiel de la vie économique du pays aujourd'hui. En dernier recours... Et c'est faire la démonstration, encore les salariés font la démonstration encore que là où les patrons ferment les entreprises, les salariés sont en capacité de les faire fonctionner. Et c'est la démonstration qu'aujourd'hui, on a un modèle économique qui est complètement défaillant et que c'est le modèle économique qu'il faut, sur lequel il faut revenir.
Bon, voilà, ça fait bientôt 90 minutes.
Mais s'ils ont la compétence, ensemble. Bien évidemment, si les uns ont la compétence de fermer les boîtes, les autres ont la compétence de
et on arrive tourner. Au terme de l'émission, bon, visiblement, au niveau de divergence, on ressaura avec la CGT, c'est le 18 mai, non, mais là, tu nous diras...
La CGT fera ses 100 ans le 18 mai. À Bessille.
À Bessille. Bon, je crois qu'aux divergences, hein, on y sera pour faire un grand moment là-dessus. Quoi qu'il en soit, bon, la semaine prochaine, dans l'Entre des Belettes, un de nos conseillers éditoriaux seront au micro.
Pour nous. Et demain, l'Inter national sera le genre humain. C'est la lutte finale. Groupons-nous. Et demain, l'Inter national sera le genre humain.
Debout les damnés de la terre.
Debout les forçats de la fin.
Je ne sais pas si comment la chanson est prémonitoire, mais j'espère qu'elle n'est pas en relation avec la météorologie qu'elle implique.
Quoi qu'il en soit, la semaine prochaine, on aura un patron sorti du peuple de la deuxième plus grande librairie de France, Sorans. C'est aussi le vice-président de la CCI de Montpellier. Il répond au doux nom de Jean-Marie Sauvestre. Il sera accompagné de ses invités, des libraires, des patrons. Enfin, on vous en dit pas plus. Quoi qu'il en soit, une fois de plus, ce sera une émission à ne pas rater sur le 93.9 tous les lundis de 12h30 à 14h. Et messieurs, vous le savez, c'est une tradition de l'émission. Vous reviendrez quand vous... Non, quand nous vous inviterons. Remerciements à la brillance de la technique réalisée par Gilles Gouget. Et n'oubliez jamais que la révolte n'est pas un droit, mais un devoir. Ciao.